à Tout Creuse, Didier Simard.
La victoire en marche, c'est mon pays.
13h30 sur France Bleu Creuse. Bienvenue dans A Tout Creuse, émission consacrée au patrimoine creusois et aux particularités que nous avons en Creuse. Hier, nous vous parlions du patrimoine du pays australien. Demain, nous vous présenterons un château sur la commune de Saint-Hilaire-le-Château. Aujourd'hui, c'est un ouvrage qu'on va mettre à l'honneur. Un ouvrage qui a été publié par l'Adréal, des sites remarquables du Limousin, deuxième édition, avec comme particularité la Creuse.
À Tout Creuse, le patrimoine creusois.
Trois invités avec nous aujourd'hui, bien sûr Guy Marchadier, notre conteur d'histoire, collecteur de mémoire. Bonjour Guy.
Bonjour Didier, bonjour à vous.
Avec nous aujourd'hui également Bruno Liénard et Richard Jantet. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Tous deux de la DREAL. Alors première question, qu'est-ce que la DREAL ?
La DREAL, ça veut dire Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement. C'est en fait, ce sont les services dans les régions du ministère en charge de l'environnement.
Et quelle est votre mission? Comment est-ce qu'on pourrait la définir?
Alors, notre mission à nous qui sommes ici, elle est plus spécifique sur la partie environnement. Donc moi, je suis en charge d'un service qui est en charge tout ce qui a trait au paysage, aux espaces naturels et aux espèces naturelles, ainsi qu'aux énergies renouvelables.
Et vous, Richard, vous êtes inspecteur des sites, c'est ça?
Exactement, je suis inspecteur des sites.
Ça fait peur, rien que le titre.
Oui, ça fait peur, mais ça n'a rien d'inquiétant. Donc moi, je suis en charge un petit peu, je suis le garant sur le département de la Creuse de la qualité un petit peu des différents sites remarquables.
Est-ce que vous travaillez en lien avec des autorités ou bien des organismes creusois?
Bien sûr, on travaille directement avec la préfecture, avant tout, et un ensemble de services compétents de l'administration, comme la direction départementale des territoires, hein, qui est une administration donc qui est très opérationnelle sur le département.
Je parlais en présentant cet ouvrage que c'est les sites remarquables du Limousin 2, parce que le premier est déjà sorti, c'était la Haute-Vienne. Est-ce que vous avez travaillé de la même manière sur le premier ouvrage ou la première édition, le numéro 1, que sur le deuxième, parce qu'il n'y a qu'une façon de travailler, la bonne, ou bien est-ce que vous adaptez justement au département et aux particularités, qui sont peut-être pas la même d'un département à un autre?
Alors en fait,
question à celui qui veut. Hein.
Oui, je vais répondre. Il s'agit d'ouvrages qui ont été réédités, puisqu'il y avait déjà une première série d'ouvrages qui a été fait il y a 10-15 ans. Donc on a repris ces textes-là qu'on a remis à jour et pour lesquels on a refait les cartes qui n'étaient pas d'une aussi bonne qualité, et également une mission photographique pour avoir des illustrations qui sont bien meilleures.
Alors, qui marche? Pardon, je vous
écoute. Oui, le principe est un peu le même. Par contre, entre l'ouvrage sur la Haute-Vienne qui est paru en 2014 et l'ouvrage sur la Creuse qui est paru donc en décembre dernier, on a des évolutions notables, notamment du fait qu'on a voulu aussi bien dans les descriptions des sites que dans les cartes, rajouter des éléments permettant la découverte, notamment les sentiers de découverte, les endroits où se garer, des petites mentions sur les façons qu'on peut proposer pour découvrir le site d'une façon ou d'une autre façon.
On a parlé de la Haute-Vienne, là on va parler de la Creuse. Est-ce qu'il y aura un ouvrage sur la Corrèze? C'est prévu? Donc le numéro 3? Oui, vous y pensez?
Oui, c'est prévu, on est engagé dans une collection. Hein, donc la Corrèze sera la troisième édition, donc la plus importante, puisqu'en Corrèze, il y a, je crois, 80 sites.
Guy Marchadier, l'ouvrage, vous êtes allé l'acheter avec vos deniers personnels. Qu'est-ce qui vous a incité à aller le prendre?
Les photos d'abord, la qualité des photos. Bien que vous n'avez pas pu visiter tous les sites, si vous aviez dû voir tous les châteaux, ce n'était pas possible. Je pense au château d'Étensanne, au château de Villemonté. Bon, on les trouve ailleurs, hein. On les trouve ailleurs. Mais enfin, ce n'était pas possible de faire tout. Mais je trouve que la nature, tant l'eau que la terre, a une grande importance dans votre livre.
Oui, c'est très clair, puisqu'en fait, ce livre rassemble, je dirais, l'ensemble des monuments naturels qui révèlent un intérêt, soit pittoresque, soit artistique, scientifique, légendaire, tel que la loi sur le code de l'environnement le décrit. Donc, tout ce qui relève en fait du patrimoine bâti ne fait pas partie de cette approche dans le cadre de l'ouvrage.
Ça répond à votre question.
J'ai été très intéressé par les cascades. Vous en parlez abondamment et de façon très poétique.
Vous aimez les cascades?
Moi, j'adore les cascades de l'Arbérol. C'est celle de mon enfance, ces cascades de l'Arbérol.
Qu'est-ce qu'elles ont de particulier, Guy?
Eh bien, Il y a le pont figure d'ailleurs dans le texte et dans la photo. Ce pont, d'un côté, la gare Tempe arrive calme, et d'un seul coup, passant de l'autre côté, eh bien, c'est le déferlement jusqu'au village de l'Arbérolle. Et puis ensuite, il y a cette petite route qui les conduit jusqu'à Bussière, là où il y a une écluse. Et tout le long, il y a de ces ponts en pierre, on ne peut pas tous les citer évidemment, qui sont remarquables. Donc, j'ai beaucoup apprécié qu'on parle de l'eau.
De quelle manière on trouve les sites à l'intérieur de l'ouvrage ? Est-ce que c'est par ordre alphabétique, par ordre d'importance, par notoriété ? Comment est-ce que vous les avez insérés les uns après les autres ?
Ah oui, ça nécessite une petite précision parce que le choix des sites qui sont dedans, en fait, nous, on n'est pas allé choisir ce qu'on trouvait, nous, comme remarquable, dans le département de la Creuse. Il s'agit des sites qui sont protégés de façon légale au titre de la loi de 1906 qui a été rénovée en 1930, la loi sur les lois sur la protection des sites, donc classement ou inscription, comme pour les monuments historiques. Et il se trouve que, au fil des âges, parce que le site le plus ancien en Creuse, c'est 1912, les gorges du Verger. Donc ça fait plus d'un siècle. Et il se trouve que dans ce département, ce qui a été choisi par les inspecteurs des sites successifs, ou les personnes qui étaient en charge de faire ce travail-là, ce sont souvent beaucoup plus des monuments naturels que des bourgs ou des monuments de type château, qui sont d'ailleurs peu nombreux en Creuse par rapport à ce qu'on peut trouver en Haute-Vienne. Et de ce fait, on a effectivement beaucoup de cascades, beaucoup de bois maintenant, parce que en un siècle, ça s'est beaucoup boisé, la Creuse, comme tout le Limousin d'ailleurs, et puis beaucoup de pierres. En fait, la Creuse, vraiment, c'est un pays de pierres, d'eau et de bois. C'est, voilà, si on veut donner une phrase qui caractérise les sites classés et inscrits de la Creuse, c'est ça. Ce sont les petits coins secrets. La Creuse, c'est vraiment le département des coins secrets, avec des cascades, avec des grosses pierres très étranges et avec du bois un peu partout.
Ça vous va, Guy, comme définition ?
Et un personnage qu'il ne faut pas oublier, le diable en Creuse.
Comme partout.
Ah, le diable ! Diable, diable ! Mais combien de ponts, combien d'endroits ? Ben, le diable a intervenu. Mais il avait un ennemi, le diable, à l'époque.
C'était vous ?
Les femmes.
Ah, bon.
Les femmes étaient plus malignes que le diable, tout le temps.
Nous vous présentons aujourd'hui un ouvrage, Les sites remarquables du Limousin, numéro 2, qui est consacré à la Creuse. Vous souhaitez poser une question, réagir, et bien c'est simple, vous nous appelez.
À tout Creuse, Didier Simard.
Toujours avec cet ouvrage, Les sites remarquables du Limousin, consacré à la Creuse, édité par l'Adréal. Avec nous aujourd'hui, Bruno Lénard et Richard Jantet de l'Adréal. Guy Marchadier, notre collecteur de mémoire, est là également. Une question, messieurs, qu'est-ce qu'on appelle un site remarquable ? Comment est-ce qu'on peut le définir, ça ? C'est parce que je suis allé sur place et je dis, c'est remarquable. Alors du coup, ça devient un site remarquable ou il y a d'autres critères ?
En fait, c'est le titre qu'on a choisi pour cette collection, hein, puisque, comme on disait tout à l'heure, le premier ouvrage sur la Haute-Vienne est paru en 2014, et puis il y en a un qui a tendu sur la Corrèze en 2017. Donc on a choisi ce thème-là parce qu'il est générique, et ça correspond aux sites qui ont en fait ont été protégés depuis, donc, comme je disais, plus d'un siècle, de façon réglementaire, d'après les lois de 1906 et 1930. Et les critères de classement, de protection de ces sites, c'est toutes les portions de territoire qui ont un intérêt au titre soit de légendaire, historique, scientifique, artistique ou pittoresque. C'est-à-dire que c'est un petit peu, effectivement, ce qui est remarquable dans le territoire. Alors, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que l'ensemble des paysages du Limousin sont quand même remarquables par rapport au reste de la France. Et ce qu'il y a dans ces livres-là, c'est ce qui sort un petit peu...
Vous dites ça par chauvinisme ou c'est vrai, vous avez des faits pour étayer vos mots ?
C'est pas du tout par chauvinisme, parce que je suis pas de la région, je suis arrivé il y a quelques années.
Non, mais ça nous fait du bien d'entendre ça.
Mais quand on se promène dans la Creuse, enfin dans la Creuse, dans la Haute-Vienne, dans la Corrèze, on voit tout le temps des paysages qui sont beaux, en général. 90% du territoire est comme ça.
Je voudrais citer une parole des maçons qui partaient à Paris, et disaient en patois, « Quand reverrons-nous le beau de Barnage ?» C'est-à-dire, quand est-ce qu'on viendra et qu'on retrouvera notre puits de bardage.
Richard Jantet, par rapport au pierre jaumâtre, l'un des sites sans doute les plus connus de Creuse, est-ce qu'il est, enfin, il a une particularité, j'aimerais que vous nous expliquiez laquelle, justement par rapport à son classement.
Alors, les pierres jaumâtres ont fait l'objet d'un classement, maintenant il y a pas loin de 80-90 ans, donc à l'époque... on pouvait penser que ces pierres avaient fait l'objet d'une intervention de la main de l'homme. Donc ces pierres ont été classées monuments historiques, alors que finalement ce sont réellement des monuments naturels qui par un phénomène d'érosion nous ont permis d'admirer ces véritables joyaux.
Et à quel moment... Érosion différentielle, dit-on.
Et à quel moment... Érosion différentielle.
Et à quel moment on s'en est rendu compte justement que la main de l'homme n'était pour rien dans ce site ? Ah mais je veux pas vous faire chercher dans votre ouvrage comme ça.
C'est j'ai plus la date du classement, mais en tout cas on a très vite réagi au titre du paysage en disant que l'ensemble de ces monuments naturels doit être classé
tout à fait.
Et reconnu, et pas au sens élément l'ensemble des pierres dans leur écrin. Parce que c'est vrai que la beauté, en fait, d'un motif, elle a de sens que dans un espace beaucoup plus grand. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de sites, hein, de portions de paysage.
Guy ?
Oui, parce qu'il y a des endroits où il y a des ronds avec de l'eau dedans, on se posait la question. Et surtout, il y a une appellation qui est demeurée, c'est le fauteuil du diable dans les pierres jaumâtres.
Est-ce que parmi vos missions, il y a également le fait de pouvoir éventuellement découvrir de nouveaux sites, ou bien vous ne travaillez que sur ce qui est connu ? Question à l'un et à l'autre, hein, d'ailleurs.
Comme l'a dit Bruno, en fait, l'ensemble du Limousin, notamment la Creuse, on pourrait le considérer comme un site remarquable à lui tout seul. Hein, il est évident que si on regarde un petit peu en parcourant ce livre l'ensemble des sites protégés en Creuse, en fait, on a énormément de motifs, on a beaucoup de rochers, en fait, de cours d'eau, de bois. Mais il y a encore un certain nombre de sites qui mériteraient en fait une reconnaissance au niveau national. On a des exemples en fait de portions de territoire qui sont très identitaires, qui sont très caractéristiques et qui mériteraient une reconnaissance au niveau national.
Alors, on l'a dit tout à l'heure, la forêt ou la nature a repris ses droits. Alors, je ne sais pas si on peut dire repris ou pas, mais depuis plus d'un siècle, on remarque que la forêt est de plus en plus présente chez nous, et c'est sans doute pareil en Haute-Vienne et puis en Corrèze. Est-ce que d'après vous, ça, il y a des sites qui sont trouvés enfouis par la végétation et qu'on pourrait retrouver?
Retrouver, c'est peut-être pas ce point-là, mais c'est vrai qu'il y a des ruisseaux qui deviennent tout d'un coup, qui s'enfoncent, qui créent des gorges qui sont très profondes et qu'on a du mal à parcourir maintenant, d'abord parce qu'elles sont étroites et ensuite parce que les berges sont entièrement colonisées, donc il n'y a plus de passage possible. Je pense par exemple aux gorges du Chacreau, qui sont très peu connues, qui sont magnifiques, qui sont près d'Évaux-les-Bains. Donc on peut y accéder depuis Évaux-les-Bains assez facilement. Après, c'est un sentier qui descend de façon assez raide, mais on se trouve dans quelque chose de très très étonnant par rapport au paysage qu'on a juste avant. Mais en revanche, on peut juste le traverser, parce qu'il se trouve qu'il y a une passerelle qui a été mise en place. Il y avait des pèlerinages à un moment donné, mais on ne peut plus l'allonger parce que tout est envahi de forêt.
Est-ce que ce qui a été écrit par soit des personnages célèbres, soit des écrivains, soit par des légendes, peut également vous intéresser pour pouvoir faire ressortir ou mettre en évidence un site par rapport à telle ou telle particularité? Je pense à George Sand, par exemple.
Oui, alors bien sûr, justement, d'ailleurs, certains sites ont été classés parce que l'intérêt, c'était l'intérêt artistique. Mmh. Et notamment le site du château de Boussac, qui n'est pas le château lui-même, mais la vue qu'on a depuis Boussac, fait référence à ce que décrit George Sand dans plusieurs de ses écrits, lorsqu'elle était en visite au château de Boussac, et qu'elle regardait le panorama depuis le salon, ou depuis la terrasse.
La Creuse est la plus belle rivière du monde à cet endroit-là, disait-elle.
Guy Marchelier, est-ce qu'il y a un site plus qu'un autre qui attire votre attention, ou bien qui vous intrigue, en Creuse?
Non, parce que je vais partout. Et partout, chaque fois, c'est la découverte. Même des choses que j'ignorais, puis je tombe en arrêt devant, et je suis très étonné. Maintenant, je me méfie des propriétaires, parce qu'il y en a beaucoup qui interdisent. On a le gouffre de Barreau, par exemple, sur la Gartempe, qui fait suite aux cascades de l'Arbérolle, mais assez loin. Et le propriétaire n'aime pas, même pour les pêcheurs, qu'ils passent dans son champ. Bruno... Et je pense qu'il peut y avoir des problèmes. Nous étions propriétaires du château de Montaigu à une époque, voilà en plus.
Monsieur était certain. Bruno Lignard, je vous ai posé la question tout à l'heure par rapport à comment ces sites sont classés à l'intérieur de l'ouvrage, mais on n'a pas eu le temps d'aller jusqu'au bout de la réponse. Alors, j'aimerais vous y revenir quand même.
Alors la réponse est classée par ordre chronologique de première inscription ou de premier classement, de première protection. Parce qu'il arrive souvent qu'au fur et à mesure du temps, on modifie le périmètre, on l'étend, où on supprime des parties, mais ça c'est très très rare. En général, on étend plutôt, ce qui veut dire que cette loi marche assez bien, puisque c'est très très rare qu'on doive supprimer des portions ou déclasser un site. On aura le cas, notamment en Creuse, sur un tilleul dont on parle un petit peu, parce que le tilleul, il a disparu. Il a été classé en 1927, et depuis, le pauvre, il a vécu. Et au même moment, un autre tilleul a été classé, c'est le tilleul de Vigeville, le tilleul des Monts, plutôt, à Vigeville, oui. qui a subi la foudre, donc qui était très diminué, mais qui reste magnifique et qui a un intérêt aussi bien pittoresque, parce que alors c'est pittoresque, c'est au sens de qui peut être peint. C'était comme ça qu'on l'entendait lors de la première loi. Donc il a cet intérêt pittoresque et aussi un intérêt écologique, parce qu'il a un grand tronc avec des grandes cavités qui peuvent accueillir énormément d'une faune tout à fait intéressante.
Là, c'est le côté biodiversité qu'il y a dans votre émission qu'on retrouve là quand vous parlez de ça.
Oui, mais parce que les deux sont intimement liés, en fait. On a beaucoup de sites classés, de sites protégés, qui sont aussi des sites naturels intéressants. Par exemple, plusieurs sites sont également classés dans le réseau Natura 2000.
Donc, votre mission personnelle, on l'a dit, les paysages, la biodiversité, puis également les énergies renouvelables. Pourquoi cette combinaison tripartite?
Alors, c'était une volonté au moment de la création de l'Adreal, qui a été créée en 2010, à la réunion de la direction de l'environnement, de celle de l'industrie de la recherche et de celle de l'équipement. Pour que on a comme mission de développer les énergies renouvelables, notamment l'éolien ou le photovoltaïque. Mais quand on fait de l'éolien, il faut aussi prendre en compte les paysages, ce qui est
ne pas dénaturer le paysage.
Donc il faut pas dénaturer le paysage, et puis il faut aussi veiller à ce que la faune ne subisse pas de dommages. Donc comme on a ces trois missions en même temps, du coup on arrive à avoir une vision des projets qui synthétise l'ensemble de ces contraintes-là.
Comment est-ce qu'on peut justement allier sites remarquables, histoire, patrimoine, peut-être même des fois préhistoire et modernité? On pourrait penser qu'il y a une incompatibilité, donc comment est-ce que vous travaillez par rapport à ça? Soit pour faire quelque chose de cohérent, soit pour faire avaler la pilule.
Alors le
ça vous plaît pas que ça avale la pilule?
Ah, non. On l'entend souvent, donc non, il n'y a pas de problème.
On me l'a dit, alors, c'est pour ça.
On dit mettre des bâtons dans les roues, si on met des bâtons dans les roues. Bon. Ce qui est important, c'est qu'on a ici un patrimoine. Le paysage, c'est un patrimoine, mais c'est un patrimoine vivant. Parce que bien souvent, c'est un patrimoine qui est issu du travail des hommes, tout simplement. Donc ce qu'il faut, c'est identifier qu'est-ce qui fait la caractéristique de ce territoire, qu'est-ce qui fait sa richesse, et quand on le fait évoluer, comment est-ce qu'il va évoluer? Est-ce qu'on va perdre le caractère essentiel de ce paysage ou pas? Et on peut très bien le faire évoluer en ayant le caractère qui reste, qui subsiste, ou alors en ayant un nouveau caractère qui sera peut-être plus intéressant.
Justement, par rapport à ça, est-ce que des fois le nouveau caractère ne va peut-être pas, est-ce qu'il va pas permettre de découvrir l'ancien caractère sur lequel l'ensemble des personnes qui sont dans le coin va passer à côté sans le voir? Mais parce qu'on y met par exemple une éolienne et on se rend compte qu'à cet endroit-là, juste à côté, il y a ça. On peut des fois faire cette double combinaison.
Ah, ça peut être possible. Oui, c'est toujours. Il faut pas voir le caractère d'un site comme ce qu'il était à une époque donnée, puisque ça a évolué.
En permanence.
Ça évolue en permanence.
Guy ?
Un exemple d'évolution, par exemple, j'avais emmené un groupe à Saint-Gousseau. Les cabanes de bergers sont dans la forêt maintenant, elles ne sont plus donc, dans les champs, là où elles devaient être. Mais elles sont bien conservées en général.
À tout creuse, Didier Simard.
Toujours avec Guy Marchedier, notre collecteur de mémoire, et puis également l'Adreal, représenté par Bruno Liénard et Richard Jantet, par rapport à la sortie de cet ouvrage, des sites remarquables du Limousin, deux consacrés à la Creuse, deux parce que le premier c'était la Haute-Vienne, un troisième est attendu sur la Corrèze, mais pas avant un an et demi, c'est ça?
C'est ça, oui.
Alors cet ouvrage, qu'est-ce qui a incité l'Adreal à vouloir le publier ou le republier?
Alors cet ouvrage, comme on le disait, c'est pas un ouvrage touristique en fait, c'est un ouvrage qui est basé vraiment sur
support
réglementaire, patrimonial, et c'est vrai que pour nous, c'est une façon aussi de sensibiliser un petit peu le grand public sur la richesse du territoire et surtout en fait le maintien qualitatif des différents sites grâce à un support réglementaire. Et c'est un peu notre métier au quotidien, on essaie aussi envers les propriétaires comme les collectivités de conseiller, de travailler en amont sur des projets de qualité hein, qui sont pour valoriser ou pour ne pas dégrader en tout cas le site. Et c'est vrai qu'il y a une citation que j'aime bien, c'est celle de Victor Hugo qui disait dans un monument il y a deux choses, il y a l'usage et la beauté, l'usage revient au propriétaire et la beauté elle appartient à tout le monde. Donc ce n'est que dépasser son droit que de le détruire. Donc, c'est...
Une belle citation.
Oui, oui, oui.
Que l'ouvrage est ancré dans notre sol.
Merci Guy. Est-ce que c'est le même photographe qui a fait toutes les photos qu'on trouve dans l'ouvrage?
Oui, oui, c'est le même photographe qui... oui.
Majoritairement.
En grande majorité. Hein, donc, qui a lui aussi pu découvrir cette creuse secrète et authentique...
Et qui est ce photographe ?
Qui est Jean-Christophe Dupuis.
Quelqu'un avec qui vous travaillez régulièrement sur les différentes publications que vous faites, là, de réel ?
Ou qui il travaille souvent avec l'éditeur qui est les Ardents Éditeurs, donc c'est l'éditeur de l'ouvrage, qui travaille souvent avec lui.
Alors un mot également sur l'éditeur, est-ce qu'il y a une volonté de cet éditeur de publier des ouvrages comme ça, des ouvrages régionaux sur le patrimoine ?
Oui, ça fait partie de sa ligne éditoriale en fait, c'est une maison d'édition qui existe depuis 5 ou 6 ans je crois, et qui édite essentiellement des ouvrages sur le patrimoine limousin, mais de façon relativement large quand même. Et on avait déjà fait un premier livre avec lui sur les arbres qui s'appelle Les arbres remarquables, dialogue avec des arbres remarquables en Limousin, qui était issu de l'inventaire des arbres remarquables fait par l'Adréal sur l'ensemble du territoire.
J'ai un ami qui était normalien en même temps que moi, qui a travaillé là-dessus, André Molusson. Est-ce que vous connaissez son nom ?
Ah non, je ne connais pas son nom.
Mais Guy a un relationnel, un réseau très important. Cet ouvrage, où est-ce qu'on peut le trouver ?
Alors on le trouve dans toutes les librairies, au moins de Creuse, mais même du Limousin, et également dans d'autres librairies à Paris, etc., chez les Ardents Éditeurs, et également dans des salons du livre. Alors, on sera présent au salon du livre Lire à Limoges, les 1er, 2 et 3 avril prochains, avec également une conférence sur le livre et le thème du paysage quelques jours avant, à la préfecture de Limoges. Il y en a une qui est prévue également à Feltin, à la médiathèque de Feltin, mais là je ne sais plus les dates.
Il faudra nous rappeler, et puis pourquoi pas repasser nous voir. Si des personnes qui nous écoutent veulent le numéro 1 sur la Haute-Vienne, il est toujours disponible ?
Il a été même réédité, puisqu'il était épuisé. Il est de nouveau disponible.
Est-ce que l'Adréal, est-ce que vous avez un site internet où on peut en savoir un peu plus sur ce que vous faites, ou bien sur vos publications, sur vos travaux ?
Oui, c'est le site internet de l'Adréal. Vous tapez Dréal Limousin, ou même maintenant Dréal Aquitaine Limousin Poitou-Charentes, puisqu'on a changé de périmètre. Et on tombe sur la partie paysage, on trouvera des informations.
Guy Marchelli, je vous laisse le mot de la fin. Je vois que vous êtes plongé dans cet ouvrage. Un petit mot pour clore cette émission ? Approchez-vous du micro.
Je dirais, trouvez vite une librairie, munissez-vous de ce qu'il faut, et puis achetez le livre parce que vous ne serez pas déçu.
C'est plutôt flatteur, hein.
C'est flatteur, merci.
Guy Marchelli est sincère. Merci d'être passé nous voir. On avait vraiment envie de parler d'ouvrage, de vous rencontrer également. Vous venez quand vous voulez, je ne peux pas mieux vous dire.
D'accord. Merci beaucoup.
Merci. Guy, on se retrouve demain. Demain, nous présenterons le château qui est basé sur la commune de Saint-Hilaire et qui a été transformé en gîte.